Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur nos ondes locales de proximité. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison des Chroniques du passé avec l'Association des Chroniques de Bresse. Et bonjour Gilliane.
Bonjour Martine.
Bonjour à tous. C'est la rentrée. Les adultes ont repris leurs activités professionnelles et les élèves leur établissement scolaire. Septembre 2024 est un peu particulier.
Ouais, en effet. Le pays fête le 80e anniversaire de sa libération. Et il y a eu de nombreuses manifestations. Nous allons l'aborder sous un autre aspect.
La guerre, racontée par deux écoles. Celle de Saint-Martin-du-Mont sur les hauteurs du Revermont et celle de Marsonna au cœur de la Bresse. Pour cela, nous disposons de documents rares qui permettent de découvrir la vie des élèves dans ces villages qui ont été marqués par des événements forts.
Avant de donner la parole à nos écoliers, écoutons la musique du film « Jeux interdits » de René Clément, qui a ému toute la France de l'après-guerre. Elle est interprétée à la guitare par Narciso Yep.
Cette période-là, 1939-1945, telle que l'ont raconté les écoliers de Marsonna et de Saint-Martin-du-Mont au moment des faits. Mais avant, rappelons le contexte de l'époque.
Pour les écoliers, la guerre commence véritablement en septembre 1939 avec le départ des instituteurs dans les centres de mobilisation. Il reste les institutrices, qui composent la moitié du corps enseignant et les plus anciens. Néanmoins, certains villages étant démunis, l'administration répartit différemment les élèves ou fait appel aux retraités pour combler les vides. La vie de ces écoles est perturbée.
Et cette année scolaire, 1939-1940, est écourtée par l'offensive allemande de mai 1940. La population fuit les envahisseurs et des flots de civils se déversent sur les routes en direction du sud. La Bresse les voit passer. C'est la débâcle. Bientôt, le pays est totalement désorganisé. Chaque village essaie d'accueillir au mieux les réfugiés, le temps d'une halte. Les écoles sont théoriquement fermées au 15 juin, mais dans les villages en dehors des grandes routes, elles continuent à accueillir les élèves.
La guerre est intense et rien n'arrête les Allemands. Ils défilent à Paris le 14 juin. L'Italie est entrée en guerre à ses côtés le 10 juin. Et les Italiens bombardent Bourg dans l'après-midi du dimanche 16 juin. La gare est visée, mais les bombes tombent sur le pourtour, tuant 13 personnes, dont un enfant de 10 ans, élève de l'école du Peloux à Bourg.
Les Allemands arrivent à Bourg le 19 juin. Déjà, le maréchal Pétain a été appelé à la tête du gouvernement. Et le 22 juin, il signe l'armistice avec les Allemands, un armistice applicable au 25 juin. C'est la fin des combats dans une France bouleversée.
Les Allemands ont continué leur progression et se sont dispersés sur le territoire conquis. Marsonna les voit arriver le 20 juin 1940. L'élève, Gabriel Perret, âgé de 13 ans, raconte cet épisode.
De lourds camions, des motocyclistes se suivent et font une courte halte à l'entrée du village. Les habitants de Marsonna, le premier émoi passé, avancent des têtes curieuses par les portes entrouvertes. C'est dans un pré que s'alignent des voitures. Les soldats coupent des branches aux arbres des haies. Ils camouflent leurs autos. On peut voir, en longeant le pré, les camions recouverts de branches et les soldats en remue ménage. Les uns réparent les camions, d'autres s'éparpillent dans les cafés, les épiceries, les boucheries et aussi au bureau de tabac.
Ils essaient de se faire comprendre pour acheter des choses nécessaires.
Au bureau de tabac, les Allemands font emplette des meilleures marques de cigarettes car ils n'aiment pas le caporal ordinaire. Au restaurant, ils font une grande consommation de bière et surtout de vin mousseux. Ils paient leurs achats en marques allemands. Les Français doivent accepter un marque pour 20 francs français. Dans les fermes, ils achètent des œufs, du beurre. Souvent, ils commandent une bonne omelette à la fermière. Le soir arrive. On entend monter dans le lointain des chants accompagnés à l'accordéon. Le lendemain, vers 10h, les Allemands quittent Marcenat.
L'histoire a suivi un cours bien particulier. La République a été supprimée. Pétain s'est fait attribuer les pleins pouvoirs et il a installé l'État français le 10 juillet à Vichy. Le pays est divisé en plusieurs zones, dont les principales sont la zone occupée au nord et sur la façade atlantique et la zone libre pour le sud. Ces deux zones sont séparées par une ligne de démarcation sévèrement contrôlée par les Allemands. Le département de l'Ain est en zone libre, sauf le pays de Gex, qui est zone interdite sous contrôle allemand.
Fin septembre 1940, les écoles ouvrent à nouveau leurs portes et, avant même cette reprise, Vichy a supprimé les écoles normales depuis le 18 septembre. Les élèves instituteurs rejoindront les lycées pour préparer le baccalauréat.
La devise du nouveau régime, c'est « travail, famille, patrie ». Les écoliers sont considérés comme des citoyens et, à ce titre, ils sont invités à participer à l'effort national du ravitaillement qui est déjà réglementé.
Dès les premiers jours d'octobre, on demande à ces écoliers de ramasser les marrons et les glands qui peuvent être utiles à la fabrication de matières végétales riches en huile et en amidon. La collecte doit être terminée fin octobre. Ce ramassage des fruits sauvages va faire l'objet d'une loi le 27 mai 1941 et de l'édition d'un fascicule pour les écoles.
S'affichant en père de la patrie, Pétain invite les écoliers à lui écrire des messages et en retour, ils reçoivent son portrait dédicacé en format carte postale. Il organise aussi le concours de la plus belle lettre. Tout cela ressemble beaucoup à la propagande de la Première Guerre mondiale. Il y aura d'autres actions similaires et la presse est invitée à en rendre compte.
Au tout début de l'année 1941, au moment des rois, il avait offert la galette du maréchal aux écoliers de France. Peu après, il institue le lever du drapeau chaque lundi matin dans tous les établissements scolaires avec chants patriotiques. À Bourg, le premier envoi des couleurs a lieu à l'école Saint-Charles le 21 mars 1941. Dans les lycées, les grands élèves se gaussent du nouvel hymne « Maréchal, nous voilà » en détournant les paroles.
Une des grandes préoccupations de Pétain, c'est le sort des prisonniers. Les écoliers sont sollicités pour diverses opérations. Le cahier de la coopérative scolaire de Saint-Martin-du-Mont indique des ventes de points textiles, des bons de solidarité et une récupération de vieux papiers par paquet de 2 kilos. Toujours au profit des prisonniers.
Ce cahier évoque l'arrivée subite des Allemands qui, le 11 novembre 1942, envahissent tout le village. L'école doit être évacuée car les Allemands vont l'occuper comme d'autres locaux. Aussi subitement qu'ils se sont déployés, ils rangent et partent ailleurs. Voilà la fin de l'épisode raconté par un élève de Saint-Martin.
Bref, c'est un soulagement général. Moi aussi, je suis soulagée. J'avais l'impression d'être dans un pays étranger. Mon école, ma maison, mon village semblaient appartenir à d'autres. J'étais gênée par tous ces étrangers armés qui prenaient nos places. Ah, je respire maintenant qu'ils sont loin. Nous voilà revenus chez nous. Chaque chose reprend son aspect familier. Nous nous retrouvons entre Français. Nous allons reprendre nos habitudes quotidiennes. Ce jour du 11 novembre 1942 ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir.
Comme chacun sait, la suite allait être tout autre, pendant près de 2 ans, avec une occupation allemande de plus en plus pesante. À partir de mars 1943, les Allemands installent un camp à Marcenat. La cantine scolaire réquisitionnée pour les repas du midi des 120 ouvriers français, eux aussi réquisitionnés. Ils sont hébergés à Morvel.
C'est un camp d'observation aérienne et durant un temps, une trentaine d'Allemandes, des militaires, œuvrent au sein de ce camp. Jusqu'en octobre 1943, elles sont hébergées au lycée Lalande de Bourg. C'est un groupe de garçons et filles qui a relaté ces faits dans une rédaction accompagnée d'un plan complet du camp. Les Allemands se sont-ils aperçus qu'ils ont été espionnés par des enfants du voisinage ?
Ce camp est ensuite désaffecté et démantelé. Et il ne reste que 13 soldats vétérans lorsqu'il est attaqué par les maquisards le 8 juin 1944. Deux Allemands sont tués dans l'attaque et les autres se rendent. La négociation a été menée par un résistant alsacien. Les vestiges du camp sont incendiés.
Il y a des représailles. Mais les Alliés ont débarqué en Normandie le 6 juin, puis en Provence le 15 août. Les Allemands se retirent en combattant. Le pays se libère avec l'aide des résistants. Les écoliers de Marsonna nous racontent l'après-midi du 3 septembre 1944.
Vers 13 heures, des motos, une mitrailleuse et un camion chargé de soldats allemands arrivèrent par la route du Sujet. Ils s'arrêtèrent sur la place et quelques soldats allèrent au café pour demander la route de Pont-de-Vaux. Ils partirent donc par la route de Bérézia. De loin en loin, passait ensuite une voiture ou un camion. Ce fut à partir de 16h30 que commença dans le village le passage des convois.
Jusqu'à 5h30, le lendemain matin, ce fut une file ininterrompue de camions, de tanks, d'autos, de motos qui traversaient dans un vacarme épouvantable le bourg de Marsonna. De temps en temps, le convoi s'arrêtait. Les chauffeurs plaçaient leurs voitures ou leurs tanks sous les arbres. Aussitôt, tous les soldats descendaient. Ils se cachaient dans les fossés et dans les maisons qui se trouvaient sur le bord de la route, car ils craignaient d'être mitraillés par les avions alliés qui les survolaient. Ils profitaient de leurs arrêts pour prendre tout ce qui leur faisait plaisir, dans les maisons, les jardins, les vergers et les vignes. Tous les véhicules étaient camouflés avec des feuillages coupés en hâte dans les...
Vers la tombée de la nuit, beaucoup de soldats passèrent à bicyclette. Ils s'arrêtèrent pour casser la croûte et se ravitailler. Ceux-là fuyaient un peu comme ils pouvaient. Les uns marchaient à plat, d'autres n'avaient plus de pneus et roulaient sur les jantes. Ils cherchaient dans les maisons des vélos de rechange. C'est ainsi qu'ils en volèrent deux en passant à Marsonna. Durant toute la nuit, qui était très claire, les convois qui roulaient sans feu se succédaient sans interruption. La dernière voiture passa vers les 9h, 9h15 du matin.
Nous aurions pu, nous pourrions, citer d'autres extraits et dire, par exemple, que la caisse de la coopérative scolaire de Saint-Martin-du-Mont a été volée par les Allemands le 28 juin 1944. Amis auditeurs, vous pourrez trouver les textes intégraux sur le site des Chroniques de Bresse.
Ainsi, nous terminons notre émission. Nous remercions Rémi qui a préparé cette chronique et Jimmy à la technique. Nous nous quittons avec une musique composée par et interprétée par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, Minor Swing.